Plusieurs esprits éminents, dans une louable pensée de conciliation et de paix, ont affirmé de nos jours que la révolution n'était que l'accomplissement du christianisme, qu'elle venait le continuer, le réaliser, tenir tout ce qu'il a promis. Si cette assertion est fondée, le XVIIIe siècle, les philosophes, les précurseurs, les maîtres de la révolution se sont trompés. Ils ont fait tout autre chose que ce qu'ils ont voulu faire. Généralement, ils ont eu un tout autre but que l'accomplissement du christianisme. Si la révolution était cela, rien de plus. Elle ne serait pas distincte du christianisme, elle en serait un âge. Elle serait son âge viril, son âge de raison. Elle ne serait rien en elle-même. En ce cas, il n'y aurait pas deux acteurs, mais un seul, le christianisme. S'il n'y a qu'un acteur, point de drame, point de crise. La lutte que nous croyons voir est une pure illusion. Le monde paraît s'agiter, en réalité il est immobile. Mais non, il n'en est pas ainsi. La lutte n'est que trop réelle. Ce n'est pas ici un combat simulé entre le même et le même. Il y a deux combattants. Et il ne faut pas dire non plus que le principe nouveau n'est qu'une critique de l'ancien, un doute, une pure négation. Qui a vu une négation? Qu'est-ce qu'une négation vivante, une négation qui agit, qui enfante comme celle-ci? Un monde est né d'elle hier. Non, pour produire, il faut être. Donc il y a deux choses et non pas une, nous ne pouvons le méconnaître. Deux principes, deux esprits, l'ancien, le nouveau. En vain le jeune, sûr de vivre et d'autant plus pacifique, dirait doucement à l'ancien. Je viens accomplir et non abolir. L'ancien ne se soucie nullement d'être accompli. Ce mot a pour lui quelque chose de funèbre et de sinistre. Il repousse cette bénédiction filiale, ne veut ni pleurs ni prières. Il écarte le rameau qu'on vient secouer sous lui. Il faut sortir des malentendus si l'on veut savoir où l'on va. La révolution continue le christianisme et elle le contredit. Elle en est à la fois l'héritière et l'adversaire. Dans ce qu'ils ont de général et d'humain, dans le sentiment, les deux principes s'accordent. Dans ce qui fait la vie propre et spéciale, dans l'idée mère de chacun d'eux, ils répugnent et se contrarient. Ils s'accordent dans le sentiment de la fraternité humaine. Ce sentiment né avec l'homme, avec le monde, commun à toute société, n'en a pas moins été étendu, approfondi par le christianisme. C'est sa gloire, sa palme éternelle. Il a trouvé la fraternité resserrée au banquet de la cité antique. Il l'a fécondée, répandue dans le vaste monde chrétien. À son tour, la révolution, fille du christianisme, l'a enseignée pour le monde, pour toute race, toute religion qu'éclaire le soleil. Voilà toute la ressemblance, et voici la différence. La révolution fonde la fraternité sur l'amour de l'homme pour l'homme, sur le devoir mutuel, sur le droit et la justice. Cette base est fondamentale et n'a besoin de nul autre. Elle n'a point cherché à ce principe certain un douteux principe historique. Elle n'a point motivé la fraternité par une parenté commune, une filiation qui, du père aux enfants, transmettrait, avec le sang, la solidarité du crime. Ce principe charnel, matériel, qui met la justice et l'injustice dans le sang, qui les fait circuler avec le flux de la vie d'une génération à l'autre, contredit violemment la notion spirituelle de la justice qui est au fond de l'âme humaine. Non, la justice n'est pas un fluide qui se transmet avec la génération. La volonté seule est juste ou injuste. Le cœur seul se veut responsable. La justice est toute en l'âme, le corps n'a rien à voir ici. Ce point de départ, barbare et matériel, étonne dans une religion qui a poussé plus loin qu'aucune autre la subtilité du dogme. Il imprime à tout le système un caractère profond d'arbitraire dont aucune subtilité ne le tirera. L'arbitraire atteint pénètre les développements du dogme, toutes les institutions religieuses qui en dérivent, et enfin l'ordre civil qui lui-même, au Moyen-Âge, dérive de ces institutions, en imite les formes, en subit l'esprit. Donnons-nous ce grand spectacle. 1. Le point de départ est celui-ci. Le crime vient d'un seul, le salut d'un seul, Adam a perdu, le Christ a sauvé. Il a sauvé, pourquoi? Parce qu'il a voulu sauver. Nul autre motif, nulle vertu, nulle œuvre de l'homme, nul mérite humain ne peut mériter ce prodigieux sacrifice d'un Dieu qui s'immole. Il se donne, mais pour rien. C'est là le miracle d'amour. Il ne demande à l'homme nulle œuvre, nul mérite antérieur. Que demande-t-il en retour de ce sacrifice immense? Une seule chose, qu'on y croit. Qu'on se croit en effet sauvé par le sang de Jésus-Christ. La foi est la condition du salut, non les œuvres de justice. Nulle justice hors de la foi. Qui ne croit pas est injuste. La justice sans la foi, sert-elle à quelque chose? À rien. Saint Paul, en posant ce principe du salut par la foi seule, a mis la justice hors de cour. Elle n'est désormais tout au plus qu'un accessoire, une suite, un des effets de la foi. 3. Sortis une fois de la justice, il nous faut aller toujours descendre dans l'arbitraire. Croire ou périr? La question posée ainsi, on découvre avec terreur qu'on périra, que le salut est attaché à une condition indépendante de la volonté. On ne croit pas comme on veut. Saint Paul avait établi que l'homme ne peut rien par ses œuvres de justice, qu'il ne peut que par la foi. Saint Augustin démontre son impuissance en la foi même. Dieu seul la donne. Il la donne gratuitement, sans rien exiger, ni foi, ni justice. Ce don gratuit, cette grâce, est la seule cause du salut. Dieu fait grâce à qui il veut. Saint Augustin a dit « Je crois parce que c'est absurde ». Il pouvait dire en ce système « Je crois parce que c'est injuste ». L'arbitraire ne va pas plus loin. Le système est consommé. Dieu aime. Nulle autre explication. Il aime qui lui plaît. Le dernier de tous, le pécheur, le moins méritant. L'amour est sa raison à lui-même. Il n'exige aucun mérite. Que serait donc le mérite, si nous pouvions encore employer ce mot? Être aimé, élu de Dieu, prédestiné au salut. Et le démérite, la damnation. Être trahi de Dieu, condamné d'avance, créé pour la damnation. Hélas, nous avions cru tout à l'heure que l'humanité était sauvée. Le sacrifice d'un Dieu semblait avoir effacé les péchés du monde. Plus de jugement, plus de justice, aveugle. Nous nous réjouissions, croyant la justice noyée dans le sang de Jésus-Christ. Et voilà que le jugement reparaît plus dur. Un jugement sans justice, ou du moins dont la justice nous sera toujours cachée. L'élu de Dieu, ce favori, reçoit de lui avec le don de la foi, le don de faire des œuvres justes, le don du salut. Que la justice soit un don, nous, nous l'avions cru active, l'acte même de la volonté. Et voilà qu'elle est passive, qu'elle se transmet en présent de Dieu à l'élu de son cœur. Cette doctrine, formulée avec plus de dureté par les protestants, n'en est pas moins celle du monde catholique, telle que la reconnaît le Concile de Trente. Si la grâce, dit-il avec l'apôtre, n'était pas gratuite, comme son nom même l'indique, si elle devait être méritée par des œuvres de justice, elle serait la justice et ne serait plus la grâce. Telle a été, dit le Concile, la croyance permanente de l'Église, et il fallait bien qu'il en fût ainsi. C'est le fond du christianisme. Hors de là, il y a philosophie et non plus religion. Celle-ci, c'est la religion de la grâce, du salut gratuit, arbitraire et du bon plaisir de Dieu. L'embarras fut grand lorsque le christianisme, avec cette doctrine opposée à la justice, fut appelé à gouverner, à juger le monde. Lorsque la jurisprudence descendit de son prétoire et dit à la nouvelle foi « Jugez à ma place ». On peut voir alors au fond de cette doctrine qui semblait suffire au monde un abîme d'insuffisance, d'incertitude, de découragement. Si l'on restait fidèle au principe que le salut est un don et non le prêt de la justice, l'homme se croisait les bras, s'asseyait et attendait. Il savait bien que ses œuvres ne pouvaient rien pour son sort. Toute activité morale cessait en ce monde. Et la vie civile, l'ordre, la justice humaine, comment les maintiendrait-on? Dieu aime et ne juge plus. Comment l'homme jugera-t-il? Tout jugement, religieux ou politique, est une contradiction flagrante dans une religion uniquement fondée sur un dogme étranger à la justice. On ne vit pas sans justice. Donc, il faut que le monde chrétien subisse la contradiction. Cela met dans beaucoup de choses du faux et du louche. On ne se tire de cette double position que par des formules hypocrites. L'Église juge et ne juge pas, tue et ne tue pas. Elle a horreur de verser le sang. Voilà pourquoi elle brûle. Que dis-je? Elle ne brûle pas. Elle remet le coupable à celui qui brûlera et elle ajoute encore une petite prière, comme pour intercéder. Comédie terrible où la justice, la fausse et cruelle justice prend le masque de la grâce. Étrange punition de l'ambition extraordinaire qui voulut plus que la justice et la méprisa. Cette Église est restée incapable de justice. Quand elle voit au Moyen-Âge celle-ci qui se relève, elle voudrait s'en rapprocher. Elle essaye de dire comme elle, de prendre sa langue. Elle avoue que l'homme peut quelque chose pour son salut par les œuvres de justice. Vains efforts. Le christianisme ne peut se réconcilier avec Papinien qu'en s'éloignant de saint Paul, en quittant sa propre base, s'inclinant hors de lui-même au risque de perdre l'équilibre et de chavirer. Parti de l'arbitraire, ce système doit rester dans l'arbitraire. Il n'en peut sortir d'un pas. Tous les mélanges bâtards par lesquels les scolastiques et d'autres depuis ont vainement essayé de faire un dogme raisonnable, un christianisme philosophe et juriste, ces mélanges doivent être écartés. Ils n'ont ni vertu ni force. On a été obligé de les laisser de côté. On les a fait rentrer dans l'oubli et le silence. Il faut voir le système en lui, dans sa pureté terrible qui a fait toute sa force. Il faut le suivre dans son règne du Moyen-Âge. Le voir partir surtout à l'époque où, fixé enfin, complet, armé, inflexible, il prend possession du monde. Sombre doctrine qui, dans la destruction de l'Empire romain, lorsque l'ordre civil périt et que la justice humaine est comme effacée, ferme le recours du tribunal suprême et, pour 1000 ans, voile la face de la justice éternelle. L'iniquité de la conquête, confirmée par arrêt de Dieu, s'autorise et se croit juste. Les vainqueurs sont les élus, les vaincus les réprouvés. Damnation sans appel, de longs siècles peuvent se passer, la conquête s'oublier, mais le ciel, vide de justice, n'en pèsera pas moins sur la terre, la formant à son image. L'arbitraire qui fait le fond de cette théologie se retrouvera partout, avec une fidélité désespérante dans les institutions politiques, dans celle même où l'homme avait cru bâtir un asile à la justice. La monarchie divine, la monarchie humaine gouverne pour leurs élus. Où donc se réfugiera l'homme? La grâce règne seule au ciel et la faveur ici-bas. Pour que la justice, deux fois proscrite et bannie, se hasarde à relever la tête, il faut une chose difficile, tant le sens humain est étouffé sous la pesanteur des mots et la pesanteur des siècles. Il faut que la justice recommence à se croire juste, qu'elle s'éveille, se souvienne d'elle-même, reprenne conscience du droit. Cette conscience, éveillée lentement pendant 600 ans de tentatives religieuses, elle éclate en 89 dans le monde politique et social. La révolution n'est autre chose que la réaction tardive de la justice contre le gouvernement de la faveur et la religion de la grâce.